Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons de tout cœur te dire merci pour ce moment que nous venons de passer, Seigneur, et ce, en ta présence. Ce moment où Dieu auront été des moments merveilleux, puisque c'est devant toi que nous nous sommes exprimés, c'est devant ta face, ô Dieu, Seigneur, que nous nous sommes inclinés. Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à toutes ces prières qui sont montées vers toi. Tu es notre Père en Jésus-Christ. Et ton désir pour chacun de nous, c'est de nous voir, Seigneur, nous approcher de toi pour pouvoir entrer dans ta présence et y demeurer. Car c'est en demeurant dans ta présence, Seigneur, que nous pouvons recevoir l'énergie, la puissance, les ressources indispensables dont nous avons besoin pour poursuivre notre marche ici-bas. Nous sommes dans un monde, Seigneur, qui essaie par tous les moyens de nous mettre, ô Dieu, les bâtons dans les roues. Un monde qui nous est hostile. Ce monde, Seigneur, essaye de nous séduire, de nous charmer par toutes sortes de choses. Ce monde essaye de nous entraîner loin de toi. Oui, nous avons affaire à toutes sortes de vents, de tempêtes qui soufflent de plus en plus dans ce monde et qui emportent tout sur leur passage. Comment résister à toutes ces tentations? Comment résister, Seigneur, ô Dieu, à toute cette obscurité des ténèbres qui envahit de plus en plus notre monde et causant, hélas, des dégâts terribles? Comment y résister si ce n'est par toi et par toi seul? Si ce n'est, ô Dieu, en restant attaché à toi? Si ce n'est, ô Dieu, en étant constamment arrosé par ta présence? Car ta présence est un véritable bouclier pour nous. Ta présence, ô Dieu, nous donne la force dont nous avons besoin pour pouvoir résister à tout cela. Merci pour tout. Nous voulons maintenant te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Ta volonté pour nous est que nous puissions croître dans ta grâce et dans ta connaissance. Ta volonté, Seigneur, c'est de nous voir aller de l'avant, aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et cela n'est possible que dans la mesure où, Seigneur, nous fonctionnons, non pas par la vue, mais plutôt par la foi. Cela n'est possible que dans la mesure où, Seigneur, notre foi croît, où notre foi grandit. Alors, donne-nous de manger ta parole, qui seule peut booster notre foi, qui seule peut, Seigneur, l'amener à grandir, à croître, et nous amener, Seigneur, entrer de plein pied dans ta victoire, celle que tu nous as acquise à Golgotha. Parle à chacun de nous, bénis ton peuple, qui est là, ce sont des âmes pour lesquelles tu es mort. Ces âmes ont du prix à tes yeux, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie de m'assister, de me soutenir, ô Dieu, afin que tout ce qui sortira de ta bouche soit vraiment ta pensée, et que cette pensée, ô Dieu, aille jusqu'au dans le cœur de ton peuple. Oui, parle-nous. Parle-nous. Dépose ta vie sur nos cœurs au travers de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien. Oui, nous pouvons acclamer le nom du Seigneur. Chaque occasion que le Seigneur nous donne devait être prise au sérieux par chacun de nous. À chaque fois que nous venons dans sa maison, à chaque fois que le Seigneur nous attire à lui, c'est toujours pour nous communiquer quelque chose d'authentique, quelque chose de vital, quelque chose dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Voyez-vous? Et cela dépend de chacun de nous. Nous devons nous conditionner. Nous devons avoir une certaine expectative, une certaine attente par rapport au Seigneur à chaque fois que nous nous asseyons à ses pieds pour recevoir sa parole. Gloire au Seigneur. Ce matin, notre thème est la proximité de Dieu, le seul bien qui demeure. Cela veut dire que nous pouvons avoir toutes sortes de biens mobiliers, des biens immobiliers, nous pouvons avoir des comptes en banque bien fournis, mais le seul bien qui demeure éternellement, le seul bien qui nous accompagne lorsque nous passerons dans l'éternité, qui est déjà avec nous dans l'espace et dans le temps, mais qui passera aussi, mes amis, outre-tombe, et nous accompagnera jusque dans l'éternité, nous fera entrer dans la félicité éternelle, eh bien, c'est la présence de Dieu. La proximité de Dieu, le seul bien qui demeure. Et pour cela, nous allons nous inspirer d'un homme. Un homme de la parole, un homme que nous trouvons dans la parole. Il s'agit donc d'Asaph, qui a été un lévite à qui David avait donné la responsabilité d'organiser le culte, de conduire des chœurs, un chœur, pour animer les cultes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le psaume 73 ou 73, psaume 73 ou 73, nous allons lire tout le psaume pour mieux comprendre notre thème et tant d'autres thèmes qui sont exploités, tant d'autres pensées qui sont donc exploitées, abordées par Asaph, par le psalmiste. Psaume d'Asaph. Oui, ça commence par une affirmation positive, par une affirmation extraordinaire. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet, bien gras. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Évidemment avec arrogance, avec orgueil, avec suffisance. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Quel mépris! Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, je compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Et enfin, le dernier verset qui va faire l'objet de notre méditation ce matin. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais inviter chacun de nous. L'inviter à une balade, à une promenade de santé, à une marche spirituelle à travers ce psaume 73 et 73, psaume d'Asaph. Je suis absolument convaincu, mes amis, qu'au cours de ce voyage, nous aurons à croiser, à rencontrer des vérités capables de nous transformer, des vérités capables, mes amis, de renouveler notre intelligence et de nous amener à vivre avec la vraie perspective de choses. La transformation, la métamorphose spirituelle que nous allons expérimenter dans notre parcours à travers ce psaume, dans cette balade de santé, dans cette marche spirituelle à travers ce psaume, eh bien, toute cette métamorphose, toute cette transformation ne peut qu'être bénéfique pour chacun de nous, car nous en avons besoin. Ces vérités vont nous aider à développer une vraie compréhension de choses qui nous environnent, nous amener à voir la vraie connaissance des réalités qui nous cernent. Car il y a dans la vie des choses qui nous dépassent. Il y a dans la vie, mes amis, des circonstances qui sont au-delà de toute analyse rationnelle. Face à ces choses-là, nous sommes comme désarmés. Nous essayons de comprendre, mais plus nous essayons de comprendre, plus la difficulté devient grande pour nous. C'est l'expérience qu'a vécue cet homme Asaph, alors qu'il a été confronté à cette énigme de la prospérité des méchants, alors qu'il a été confronté à cette difficulté douloureuse de voir les méchants, de voir les gens pervers, des gens incrédules, des gens athées, des gens qui n'ont rien à cirer avec la parole de Dieu, des gens remplis d'arrogance, de suffisance et d'orgueil. Voir ces gens-là, mes amis, progresser dans la vie, aller de réussite en réussite, de succès en succès, alors que lui qui craignait Dieu, alors que lui qui passait tout son temps à plaire au Créateur, à posséder son corps, son âme, son esprit, bref, son cœur dans la pureté, lui passait par des moments difficiles. Des choses, des circonstances que nous ne pouvons comprendre véritablement que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Car c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons recevoir la vraie perspective des choses. Rappelez-vous d'Abraham le dimanche dernier. Cet homme aussi se retrouvait dans une situation presque analogue à celle d'Asaph. Dieu lui avait fait la promesse de lui susciter un jour une postérité, de lui donner un fils, et puis à partir de ce fils, lui susciter une descendance nombreuse. Et puis voilà, le temps passe, son corps s'use, sa femme est de plus en plus sous le poids de l'âge. Abraham, assis dans sa tente, regarde à sa femme, il regarde à lui-même et se dit, mais certes Dieu est fidèle, il a promis qu'il nous donnerait un héritier, par qui il nous susciterait une descendance nombreuse. Et comment peut-il encore nous accorder un enfant? Nous sommes vieux, le temps a passé. C'est certainement par Eliezer, mon fidèle serviteur, que Dieu accomplira sa promesse. Il est assis dans sa tente rationnelle, ou rationaliste. Il est dans sa tente
Et tout son horizon, mes amis, toute sa perspective se limite à l'attente. Il ne voit pas au-delà.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous l'avons vu le dimanche dernier. Le Seigneur lui a demandé de sortir. Il a fait sortir de sa tente. Il a fait sortir de cette vision étriquée de choses, de cette vision limitée de choses, de son horizon qui s'est limité simplement à ce qu'il y avait dans sa tente. Une femme de plus en plus incapable d'avoir un enfant, lui-même usé par le temps. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans sa tente? Il y a ce fidèle serviteur. Parmi ses serviteurs, lui, Eliezer. Il arrive, il tire la conclusion, c'est certainement par lui. Mais le Seigneur lui dit, non, l'enfant viendra de toi. Et pour, mes amis, le faire sortir de cette réalité, il va l'amener à quitter sa tente. Et dehors, il lui dit, contemple le ciel. Regarde toutes ces étoiles qui brillent les unes les autres. Telle sera ta postérité. Oh, alléluia. C'est à partir donc de la présence de Dieu que cet homme Abraham va considérer les choses. Sa foi va être boostée. Il va désormais marcher non pas par la vue, non pas d'après des conclusions dues à telle ou telle autre réflexion venue de sa part, mais cette fois-ci il va marcher par la foi. Mes amis, c'est dans la présence du Seigneur et dans la présence seule du Seigneur que nous acquérons cette capacité de comprendre les réalités qui nous environnent, de comprendre les choses qui nous paraissent énigmatiques, qui sont là au-delà. Comment expliquer cela? Lui, quand il était avec moi à l'université, il ne faisait que corrompre jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Comment se fait-il que lui occupe cette place? Alors que moi, j'ai travaillé, je suis arrivé au terme de mes études, avec brio, etc. Je suis là, tourné en rond. En plus, Seigneur, je te connais. Je marche dans la crainte de ton nom. J'essaye de marcher autant que faire se peut, d'après ta parole. Malgré tout cela, Seigneur, je passe toujours par des moments difficiles. J'ai l'impression de tourner en rond. Eh oui, nous le verrons prochainement. Je reviendrai un peu plus en détail là-dessus. Des choses qui sont de véritables énigmes pour nous. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Comme la prospérité temporaire. Mes amis, des méchants. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui ont une certaine connaissance théorique de Dieu. Et qui mènent leur vie comme ils l'entendent. Qui marchent au gré de leurs pensées perverties. Au gré de leurs instincts. Il faut l'avouer, mes amis, nous sommes souvent perplexes face au bonheur des impies, face au succès des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont plongés dans la corruption, dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, des gens qui consultent des féticheurs à gauche et à droite. Et voilà que ces gens prospèrent. Voilà que ces gens vont de l'avant. Des choses pareilles, ne peuvent que nous laisser perplexes. Oui, face à la réussite des gens véreux, malhonnêtes, face aux orgueilleux et aux arrogants, nous avons de la peine à comprendre tout cela. Ce sont tous des thèmes qu'Asaph exploite, qu'Asaph aborde dans ce psaume. Et ces différents thèmes qu'il aborde et que nous allons étudier dans les dimanches qui viennent, sont là devant nous, mes amis, comme des circuits par lesquels nous allons passer dans notre parcours à travers donc ce psaume. Et au terme de ce petit voyage, au terme de cette balade de santé, eh bien, il y a le Seigneur lui-même qui nous attend, oh alléluia. Comme Asaph, il faudra que nous arrivions, mes amis, à cette conclusion. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon seul bien. Oh, alléluia. Pour moi, j'ai placé mon refuge en lui. Je ne m'appuie pas sur les choses matérielles.
Je ne m'appuie pas sur ma position sociale. Je ne m'appuie pas sur mes diplômes. Je ne m'appuie pas sur telle ou telle autre responsabilité. Toutes ces choses sont fragiles et éphémères. Pour moi, j'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention sur le verset 28, où le psalmiste déclare « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » J'ai essayé de traduire littéralement de l'hébreu en français. Et voilà ce que ça donne. « Et moi, la proximité d'Élohim est pour moi le bien. » Pas un bien, le bien. Gloire au Seigneur. Il faut savoir que le mot « shalom » en hébreu veut dire à la fois « paix », veut dire à la fois « bonheur », veut dire à la fois « bien ». Tout ce qui est bien, tout ce qui contribue à, comment, au bonheur de l'homme, tout cela est « shalom ». La proximité de Dieu, le fait d'être près de Dieu, le fait de demeurer dans l'intimité de Dieu, mes amis, de vivre dans cette grande proximité avec notre Sauveur bien-aimé, voilà, frères et sœurs, le seul bien qui demeure. Voilà le vrai patrimoine après lequel nous devrions tous languir, après lequel nous devrions tous aspirer. Voyez-vous, certains d'entre nous se sont constitués un vrai patrimoine immobilier. C'est une bonne chose. Mais toutes ces choses sont éphémères. Le vrai patrimoine, eh bien, c'est ce que nous trouvons au verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon seul bien. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, point de besoin de vous rappeler que nous entrons dans ce monde nu, comme des vers de terre, sans rien. Et dans les premières années de notre existence, nous dépendons totalement, entièrement, d'abord de nos parents, de notre maman qui nous allaite, de notre maman qui veille sur nous, le papa est là, il va travailler, etc. Nous dépendons entièrement des autres, de la famille, de la société, etc. Et puis, chemin faisant, nous grandissons, nous devenons adultes, nous entrons dans la vie active, nous commençons à gagner de l'argent parce que nous travaillons, et avec ça, nous acquérons ceci, nous acquérons cela, nous arrivons à acquérir des biens de différentes natures, comme je l'ai souligné, du mobilier, pour certains, des grands luxes, ils ont investi dans du mobilier très cher, qui ont appartenu, ou qui a appartenu à Louis XIV. Ça fait un véritable trésor. Nous investissons dans l'immobilier, nous achetons ou nous faisons construire une maison, c'est une bonne chose. Nous achetons un appartement, nous construisons un immeuble, très très bonne chose. Et puis nous accumulons de l'argent. Mais toutes ces possessions, qui peuvent être considérées comme étant des bénédictions, pour autant que nous les ayons acquises de manière honnête, oui, toutes ces possessions, mes amis, quelle que soit leur nature, restent temporelles, restent éphémères, ont une valeur temporelle. Tout cela restera le jour où nous quitterons cette terre. Nus nous sommes sortis du sein de nos mères, nus nous retournerons dans le sein de la terre. Voyez-vous, l'homme, l'être humain, a une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de sa position sociale, qui ne dépend pas du nombre de diplômes qu'il a, qui ne dépend pas, mes amis, de ses possessions matérielles. Il a une valeur intrinsèque, tout être humain. Car tout être humain, mes amis, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh,
alléluia.
Gloire au Seigneur. La possession sociale, la position sociale, la possession des biens n'apporte aucune plus-value à notre vie. Ça n'augmente pas notre valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes créés à sa ressemblance et par conséquent, nous avons une valeur qui va au-delà de notre position sociale, qui va au-delà, mes amis, de nos diplômes. Que nous soyons pauvres, que nous ayons de l'argent, que nous ayons telle ou telle autre responsabilité, tout cela n'ajoute rien quant à notre valeur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important que nous le comprenions, car pour n'avoir pas compris au départ, eh bien Asaph se retrouvait à envier, à jalouser les méchants dans leur prospérité. Voyez-vous? Heureusement qu'il a eu le temps de se ressaisir. Heureusement, pendant tout ce temps, il est resté attaché à Dieu. Et cela l'a amené à entrer dans sa présence. Et quand il est entré dans sa présence, alors, il a compris. Il a reçu la vraie compréhension. Et il est arrivé à la conclusion que le seul bien qui demeure, c'est Dieu lui-même. Oh, alléluia. Que la relation extraordinaire, mes amis, qui est appelée à demeurer éternellement, c'est celle que nous avons avec notre Père en Jésus-Christ. Rien ne peut augmenter notre vie. Rien. Nous sommes des êtres humains, faits à l'image du Dieu de la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous entrons nus dans ce monde, sans rien. Et au jour de notre départ, c'est-à-dire au jour de notre mort, nous laissons tout derrière nous. C'est ce qui est terrible. Il y en a qui auront travaillé, qui auront transpiré, qui auront versé beaucoup de larmes pour se constituer un petit trésor. Voyez-vous. Et quand ils sont arrivés, eh bien, à réaliser, à concrétiser leur rêve, le voilà tout heureux et tout content. Et juste au moment où ils veulent en jouir, hop, la mort les frappe. Ils laissent tout et ils s'en vont. Nous entrons nus. Nous sortons du sein de nos mères sans rien. Il n'y a personne qui est né avec une couche de pampers. Voilà, d'un certain prix. Voilà. Il n'y a personne qui est né avec un bracelet en or. Mais rien du tout. Voyez-vous, nus nous sommes sortis du sein de nos mères. Et au terme de notre voyage ici-bas, nous partirons sans rien. Tout ce que nous aurons accumulé ici-bas, tout cela restera. Et d'autres personnes en jouiront. C'est ce qui est terrible. Voyez-vous? Vous voyez pourquoi la Bible nous met en garde contre tout attachement irrationnel, tout attachement aveugle, tout attachement fou au bien de ce monde, ni même d'y lier une quelconque valeur, que nous en ayons ou que nous n'en ayons pas, cela ne change rien quant à notre valeur aux yeux de Dieu. Si nous les avons, eh bien faisons tout pour transformer ces biens matériels en des valeurs éternelles. Si nous sommes riches, nous avons une certaine fortune, ce n'est pas un problème. Alors, utilisons cette fortune pour être riches en œuvres bonnes et glorieuses pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Rappelez-vous de l'expérience terrible de Job. Cet homme a connu l'aisance, l'exubérance matérielle. Cet homme était extrêmement riche. Il avait beaucoup de biens, voyez-vous. Et puis, un jour, tout s'est effondré. Il a commencé par perdre tous ses biens, pour finalement perdre même sa propre santé. Eh oui, ça peut arriver, mes amis. C'est là que nous voyons que c'est de la vanité de vouloir s'accrocher aux choses de ce monde, de prendre plus soin de son corps que de son âme. Car quel que soit le soin que nous apportons à ce corps, oui, il faut un certain nombre de soins, mais nous ne devons jamais oublier que ce corps est mortel, que ce corps, mes amis, est fragile, que ce corps est vulnérable, que tôt ou tard, Puisqu'ayant été marqué par le péché, ce corps retourne à la poussière. Si on vous amenait le reste d'un homme qui avait vécu dans l'opulence, d'un homme fortuné, et le reste d'un homme pauvre, eh bien, si on ne vous dit pas qui est qui, vous ne verriez pas des différences, oui ou non. Vous verriez des morceaux d'eau, c'est tout, crâne et le reste. Et vous ne pourriez même pas mettre le visage sur ces squelettes. Voilà. Et le squelette du riche, et le squelette de l'homme pauvre, tous pareils. Job, après avoir tout perdu, a fini par comprendre une vérité formidable, extraordinaire. La Bible nous dit, après avoir tout perdu, il s'est rasé la tête, il s'est jeté par terre, il s'est prosterné. Voyez-vous, et ce qu'il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. Et il ajoute, l'Éternel, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit. Voilà, mes amis, la vérité qui devrait et qui doit nous accompagner. Voyez-vous? Alors, puisque tout est appelé à passer, recherchons alors, mes amis, et c'est le sens de ma prédication ce matin, recherchons alors le seul bien qui demeure, le bien suprême, à savoir la proximité avec Dieu, à savoir s'approcher de Lui, entrer dans une relation de plus en plus intime avec Lui, être près de Lui, voyez-vous, ne jamais sortir de sa présence, demeurer en Lui. Voilà la chose qui devrait nous préoccuper. Gloire à Dieu. Mes amis, parler de la proximité de Dieu, c'est parler du fait d'être près de Dieu. C'est parler de l'action de s'approcher du Dieu de la Bible, de ce Dieu qui est une personne, qui n'est pas une force impersonnelle. Ce Dieu qui est une personne et qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Parler de proximité de Dieu, c'est parler, mes amis, du fait de s'approcher de ce Dieu-là. Il s'agit donc d'un mouvement dynamique qui nous amène à quitter un point pour une destination que nous connaissons, à savoir Dieu lui-même. C'est donc un mouvement qui nous amène à aller, à nous tendre, mes amis, vers notre Créateur. Un mouvement qui nous amène à entrer dans sa présence, à aller vers lui, lui et lui seul. Donc, s'approcher de Dieu est une expérience merveilleuse, magnifique, qui nous fait approcher de celui qui par sa seule volonté a créé toutes choses. Et cette expérience nous amène à demeurer dans sa présence, dans son intimité. Et gloire à Dieu. C'est donc une expérience merveilleuse. C'est l'expérience la plus extraordinaire qui soit. Vous voyez? Il n'y a pas très longtemps, la liste du nouveau gouvernement ici chez nous est sortie. Et je suis convaincu que tous ceux qui se sont retrouvés au gouvernement ont fêté, à juste titre, n'est-ce pas? Ils se sont réjouis. Voilà. Il y en a qui étaient déjà, étant dans le secret du chef, savaient déjà qu'ils seraient sur la liste. Ils ont préparé le champagne et tout ça, ils se sont réjouis. Parce qu'ils vont se retrouver au gouvernement. Parce que de par cette position, ils vont approcher le Premier ministre. Parce que de par cette position, ils pourront se retrouver dans des conseils avec le Président de la République et puis avec d'autres autorités. Parce que cette position va leur assurer certains avantages. Vous voyez, ils vont s'approcher des autorités suprêmes de ce pays. Mais approcher Dieu est une expérience qui n'a pas d'équivalent ici-bas. Une expérience dynamique, une expérience ou l'expérience la plus merveilleuse. Mais, il y a un mais, cette expérience magnifique, cette expérience merveilleuse et vitale pour l'homme, ne peut pas être faite par n'importe qui et n'importe comment. On ne peut pas se lever comme ça, et pire, au détour d'une rue, il dit, tiens, je viens de rencontrer, croiser Jésus, oh hallelujah, j'approche Jésus. Voyez-vous, on ne peut pas comme ça se lancer dans une aventure religieuse, et se dire, voilà, j'ai rencontré Dieu au travers de telle ou telle autre pratique religieuse, spirituelle ou autre. Il y a donc des vérités que nous devons connaître à propos de cette expérience. Il y a des préalables. Eh oui, il y a des préalables. Voyez-vous, il faut d'abord une rencontre personnelle avec Dieu, oh hallelujah. Il faut d'abord le rencontrer pour pouvoir espérer l'approcher. De cette rencontre avec lui, une relation va naître. Voyez-vous, étant désormais en relation avec Dieu, nous pouvons alors nous approcher de lui et développer, in fine, une grande proximité avec lui. Alléluia. Il y a donc tout un chemin, il y a tout un processus. Nous devons faire très attention. Aujourd'hui, toutes sortes de recettes sont présentées aux gens pour qu'ils puissent expérimenter Dieu. Attention, le diable est très rusé, le diable est très malin. Il a ouvert toutes sortes de lieux à gauche, à droite, à travers le monde. Il a créé toutes sortes de cultes, il a inspiré toutes sortes de religions pour distraire l'homme, pour l'éloigner de la vraie rencontre avec le Créateur. Voilà pourquoi nous devons nous poser deux questions importantes. Où rencontrer Dieu? Ah, c'est une chose de savoir que je peux le rencontrer, mais c'en est une autre de savoir où. Voyez-vous? Où rencontrer Dieu? Deuxième question, comment le rencontrer? Voilà, la réponse ou les réponses à ces deux questions sont vitales pour nous. Et beaucoup, malheureusement, ont cherché et cherchent encore à rencontrer Dieu. Mais ils ont pris un mauvais chemin. Ils sont tombés entre les mains de toutes sortes d'aventuriers qui sévissent dans notre monde, toutes sortes de faux prophètes, toutes sortes de chefs spirituels qui les ont trompés et ils ont adhéré à telle ou telle autre démarche et ils sont convaincus qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils sont sur une pente glissante dont l'issue est la ruine et la destruction éternelle. Nous devons faire très attention. Notre vie est appelée à se poursuivre outre tombe. La mort ne met pas un terme à l'existence humaine. L'homme continue à exister après sa mort. À la mort, ce vase d'argile est brisé. Il retourne à la poussière. Mais notre âme, ce que nous sommes véritablement, passe dans l'éternité. Ceux qui nous ont quittés, là où ils sont tout aussi conscients d'eux qu'ils l'étaient quand ils étaient sur terre. Ou quand ils étaient sur terre. Où rencontrer Dieu? Dans quel endroit dois-je partir? Dans quel lieu de pèlerinage? Vers quel prophète me tourner? Pour rencontrer Dieu, tant de questions que nous pouvons nous poser et auxquelles, laissez-moi vous dire, le diable a tout un panel de réponses. Voilà. Et il propose toutes sortes de solutions. Où rencontrer Dieu? D'abord, pas dans une religion. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu n'est pas dans un système religieux, même monothéiste. C'est important de le savoir. On ne peut pas rencontrer Dieu au travers d'une pratique religieuse. Je fais ceci d'après ce que ma religion me demande de le faire et par conséquent, donc je peux rencontrer Dieu. Attention, Dieu n'est pas dans tous ces lieux dits sacrés, dans ces lieux dits de pèlerinage. Il y a des gens qui dépensent des sommes énormes, mes amis, pour aller dans tel ou tel autre lieu de pèlerinage afin de s'approcher du ciel. Mes amis, non, personne ne peut par ses propres efforts s'approcher du ciel. Le ciel s'est approché de l'homme. Mais seulement il faut savoir comment et où. Aucune religion n'est en mesure de délivrer l'homme de la pesanteur du péché. Il y a une force en nous, mes amis, une force funeste, macabre, démoniaque, charnelle, qui nous tire vers la tombe. Et personne n'est assez fort. Aucun prophète ne peut prétendre, mes amis, donner une recette aux autres qui leur permettent de s'affranchir de cette pesanteur morbide, mortifère. Non. Dieu ne se trouve pas dans tous ces lieux. Alors, où Dieu se trouve-t-il? Dans un temple comme ici, non? Avant que ce temple existe, il y avait un hôtel, bar, restaurant ici. Les gens venaient boire, les gens venaient s'amuser. Il y avait un bar là-bas. Hein? Quand moi je suis arrivé ici à la borne en 1984, il y avait encore le comptoir. Tout ça n'existait pas. Voyez-vous, je me souviens encore, il y avait la photo du maréchal un peu dans un coin. Puisqu'il fallait la déplacer avec beaucoup, beaucoup de... Je me souviens avoir même posé la question dans mon zèle, hein, je venais de me convertir. Je suis allé voir le pasteur et il dit, mais qu'est-ce que le maréchal a à voir ici? Il dit, frère, je sais. Il était d'abord ici, je l'ai mis là-bas, maintenant il est dans le coin, puis petit à petit. Où puis-je trouver Dieu? Il y a des lieux de pèlerinage, et vous ne le trouverez pas. Vous allez trouver une religion qui peut même rencontrer certaines de vos aspirations. On va vous donner un uniforme, et vous allez être content. Le ciel est avec moi parce que vous êtes habillé en noir, rouge, rouge-blanc ou vert-blanc, tout ce que vous voulez. Ça peut vous faire du bien, ça peut faire du bien aux autres, mais ce n'est pas la couleur de vos vêtements qui vont vous emmener dans les bras de Dieu. Ou alors trouver, il y a un seul lieu, il y a un seul endroit. Lorsque nous nous tournons et nous allons là-bas, nous le rencontrons. Eh bien, mes amis, c'est par et en Jésus-Christ seul que l'homme pécheur rencontre son Créateur. Répandez ce message. Dieu ne se trouve pas au pied d'un prophète. Dieu ne se trouve pas dans un système religieux. Dieu ne se trouve pas dans toutes ces villes qui nous sont présentées comme étant des lieux sacrés, des lieux saints. Pas du tout. Vous pouvez aller à Jérusalem, là où le Seigneur est mort, vous trouverez des pécheurs, vous trouverez des soulards, des arrogants, des adultères, de tout. Dieu se révèle par Jésus-Christ. Dieu se révèle en Jésus-Christ. La Bible déclare, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu. » Et la Bible est ajoutée, « Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. » Oh, alléluia! Celui, le trait d'union entre l'homme et le Créateur, c'est en Jésus. Quand vous tournez vers Jésus, là alors vous pouvez rencontrer le Créateur. Là, vous pouvez rencontrer le Dieu de la Bible. Vous pouvez rencontrer le Dieu qui s'était révélé à Abraham. Jésus, et Jésus seul. C'est lui le chemin qui mène au ciel. Il a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. C'est lui le chemin. Le chemin qui mène au ciel. Le chemin qui nous amène à rencontrer Dieu, le seul, l'unique, le véritable Dieu. Ce chemin-là, mes amis, est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin. Je suis la vie. La vie dont l'homme a besoin. Cette vie aux qualités exceptionnelles. Cette vie éternelle. Cette vie d'épanouissement. Cette vie de victoire. Cette vie de véritable liberté. Cette vie, mes amis, de gloire. Cette vie est une personne, Jésus-Christ. Et il ajoute, je suis la vérité qui nous rend libres. Alors que la religion nous a servis Alors que toutes sortes de systèmes philosophiques ou autres conduisent les gens sur une pente glissante, les vampirisent, les asservissent, lui, Jésus, nous affranchit de tout esclavage, car il est la vérité. Et Paul, autrefois pharisien intégriste, autrefois criminel, meurtrier, quand il rencontre le Seigneur, il se met à son service, il se met à le prêcher, à le proclamer. Dans Romains 10, verset 9, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras... » Il n'est pas dit que si tu vas à Kanyama, il n'est pas dit que si tu vas dans le Maniema, non, c'est en une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, les temps sont difficiles. Toutes sortes de théories, toutes sortes de théologies sont véhiculées autour de nous. Attention, le diable est très subtil, le diable est très rusé. Et beaucoup d'hommes et de femmes ne se rendent compte qu'au jour où ils quittent leur corps, quand ils arrivent de l'autre côté, s'attendant à ce qu'ils rencontrent leur prophète, les bras ouverts, a dit, ah, soyez les bienvenus. Mais non, ce sont les hôtes des ténèbres. Ce sont les hôtes de l'enfer. Ce sont les caïmans obscurs qui, là-bas, dans les souffrances, dès qu'ils arrivent, oh, Ndeko, vous regardez, vous dites quoi? Dieu n'est pas là, il dit ici Dieu. Comment ça? On m'avait dit que c'est... On t'avait dit. Nous aussi, on avait suivi Satan, nous sommes là. Attention, notre âme n'a pas de prix. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas berner par les mensonges du diable. Et enfin, comment pour avancer? Comment rencontrer Dieu? C'est en Jésus-Christ, mais comment? Par la foi, oh alléluia. La foi repose entièrement, totalement sur la personne de Jésus-Christ, et sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous sommes sauvés par sa mort, alléluia. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, mes amis, pour notre victoire. Donc, la foi, c'est plus que croire. La foi, c'est plus qu'avoir une théorie sur Dieu, etc. La foi, c'est une adhésion totale, entière, à la personne de Jésus-Christ. La foi, c'est se reposer, non pas sur nos œuvres, non pas sur telle ou telle autre chose, mais se reposer sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alléluia. Donc par la foi nous sommes sauvés. Et aussi par la foi nous approchons Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 10, 22, approchons-nous donc de Dieu évidemment, d'un cœur sincère ou véridique, avec une foi pleine, et entière, ou dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Et l'apôtre Jacques, de conclure en disant, Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il, car il est une personne. Si vous approchez d'un tabouret, de ce fauteuil, mais le fauteuil ne s'approchera jamais de vous. Dieu a promis de s'approcher de quiconque s'approche de lui. Et nous approchons Dieu en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous approchons Dieu par la foi. Mes amis, je m'arrête là, nous continuerons la fois prochaine. Souvenez-vous. Cherchez le seul bien qui demeure, la proximité avec Dieu. Pour moi, arriver à dire avec Asaph, pour moi, m'approcher de Dieu est mon seul bien. M'approcher de Dieu est mon seul bonheur. M'approcher de Dieu est mon seul patrimoine. Voyez-vous, le seul qui demeure éternellement. Si je constitue ce patrimoine-là, c'est-à-dire ma relation avec le Seigneur, ma proximité avec lui, mon intimité avec lui, alors je suis parmi les hommes les plus riches, mais alors les véritables riches, c'est-à-dire ceux qui, après leur mort, retrouvent leur richesse là au ciel. Car les riches de ce monde, ils sont riches pendant leur existence, et quand ils passent de l'autre côté, ils sont les plus malheureux. Parce que quand ils arrivent là-bas, eh bien, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, si ce n'est la souffrance, mais alors une souffrance atroce. Si ce n'est la douleur, mais alors une douleur éternelle. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et vous voudrez demander à certaines personnes qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, vous avez fréquenté une église, vous avez été ça et là, et vous avez entendu parler de Dieu, etc. Mais vous n'avez jamais décidé de vous repentir de votre vie passée, de vous tourner vers le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Vous n'avez jamais pris la décision de rencontrer Dieu par et en Jésus-Christ. Et ce matin, vous aimeriez le faire. Alors je vous donne l'occasion, mon frère et ma sœur, de le faire. Un jour, je l'ai rencontré, et de cette rencontre, une relation est née. Et depuis, j'entretiens une relation formidable avec le Seigneur. Je ne suis pas le seul. Beaucoup peuvent le témoigner. Alors, y a-t-il quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ce matin, en se tournant vers le Seigneur, en criant à lui, en lui disant, « Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Si tu es là, mon frère, ma sœur, cher ami, si tu es là, je te demande simplement de lever ta main et nous allons prier avec toi. » Oh, alléluia. Maintenant, si tu n'as pas le courage de le faire, eh bien, tu peux nous voir même à la fin, car c'est une décision importante. Cherche ce bien-là. C'est le seul bien que tu peux garder éternellement. Tout ce que tu peux recevoir, tout ce que tu peux gagner sur le plan matériel, tout cela est appelé un jour à rester. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci au Dieu pour nous avoir aidé à comprendre cette vérité selon laquelle notre relation avec toi, notre proximité avec toi, notre intimité avec toi, le fait d'être approché, reste le seul bien qui demeure. Alors que tout autre bien, quelle que soit sa nature, est appelé à passer, nous te prions, Seigneur, de nous aider à ne pas nous attacher au bien que le monde offre, mais plutôt nous attacher à toi et à toi seul. Que tu nous aides, Seigneur, à faire de notre relation avec toi la priorité de nos vies. Merci pour tout.